Microcité.
Une émission de l'école de journalisme de Grenoble.
Sur Campus Grenoble 90.8. 16h30, 17h.
Xavier Ponroy.
Bonjour à toutes et à tous, il est 16h30 sur Radio Campus Grenoble et vous êtes bien dans Microcité, l'émission des étudiants de l'école de journalisme de Grenoble. Une émission forcément un peu particulière pour nous, encore apprentis dans le monde de la radio, puisque nous avons aujourd'hui une pensée pour nos confrères ou nos grands frères de France Bleu Isère. L'incendie qui a ravagé leurs locaux leur a fait perdre leur matériel et leur lieu de travail, mais nous savons que leur envie d'informer de manière juste et avec proximité, elle, est restée intacte. L'équipe de Microcité et j'en suis sûr toute l'école de journalisme de Grenoble apporte son soutien aux personnes de France Bleu Isère via cette émission. Et au sommaire de cette émission, justement, nous reviendrons en longueur sur la loi anti-casseurs dans notre dossier. Elle a été examinée cette semaine à l'Assemblée nationale et plusieurs dispositions prévues par la loi interrogent à la fois à gauche, à droite et dans la majorité. Alors que contient cette loi? Comment va-t-elle être appliquée? Et pourquoi est-elle dénoncée comme liberticide par beaucoup? Rudy Pupin posera toutes ces questions en deuxième partie d'émission à ses invités. Et puis le long format de Microcité est cette semaine consacré au rugby. Le tournoi Destination commence ce soir. Mais depuis plusieurs mois, ce n'est pas pour le jeu, mais plutôt pour sa dangerosité que le rugby fait parler de lui. Alexandre Lepère est allé voir les jeunes du FCG, le club grenoblois, pour savoir comment ils se préparaient au choc sur le terrain. Voilà pour le programme, on est ensemble jusqu'à 17h. Microcité volume 12, ça commence maintenant. On commence par le journal. Bonjour Florine Boukhalifa.
Bonjour. Les ennuis continuent pour Alexandre Benalla. Mediapart a publié hier un enregistrement compromettant pour l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron. Plus d'informations dans ce journal. La lutte contre l'homophobie dans le milieu scolaire. Une campagne de sensibilisation a débuté lundi dans tous les collèges et lycées de France. Nouveauté cette année, l'inscription du terme transphobie sur les affiches. Aurélia Valarier s'est penchée sur le sujet. Fait important cette semaine, l'incendie des locaux de France Bleu Isère dans la nuit de dimanche à lundi. Les faits ont été revendiqués. Léo Corcos nous en dira plus sur les auteurs et leurs motivations. Et puis à Grenoble, la mosquée Al-Kaoutar menacée de fermeture administrative. Nous avons rencontré le porte-parole de l'AMD, l'association musulmane dauphinoise.
Microcité.
À la veille de l'acte 12 des Gilets jaunes, c'est une décision qui devrait faire beaucoup de bruit. Le Conseil d'État rejette les demandes de suspension de l'usage des LBD, également appelés flashball. Il les considère, je cite, « nécessaires et appropriées ». Cette requête avait été déposée par la CGT et la Ligue des droits de l'homme. L'utilisation de l'arme est particulièrement critiquée depuis le début des manifestations des Gilets jaunes. Dernière polémique en date, Jérôme Rodriguez, figure du mouvement, blessé à l'œil samedi dernier après un tir de flashball. Sa défense devient de plus en plus compliquée. Mediapart a révélé hier des enregistrements audio où on entend Alexandre Benalla discuter avec Vincent Kraz, ancien gendarme et employé de La République En Marche. C'était le 26 juillet dernier et ce, alors qu'ils avaient l'interdiction totale de se rencontrer. Autre point important, on entend l'ancien chef de la sécurité d'Emmanuel Macron se vanter du soutien du président de la République. Rappelons-le tout de même, Alexandre Benalla et Vincent Kraz sont tous deux mis en examen pour les violences policières lors des manifestations du 1er mai dernier, et cet échange constitue une violation de leur contrôle judiciaire.
Une nouvelle campagne de sensibilisation contre l'homophobie.
Elle a été lancée par le gouvernement lundi pour faire face à la recrudescence des discriminations envers la communauté LGBT en milieu scolaire. Et cette année, il y a une nouveauté, le terme de transphobie apparaît sur les affiches. Un transsexuel, c'est une personne qui dissocie son identité de son genre. Ça peut être un homme habillé en femme, par exemple. Et la transphobie, c'est justement le rejet de ces individus dans la société. Mais Aurélia Valarier, ce terme reste encore peu connu par une majorité d'élèves.
La transphobie, ça vous parle ou pas du tout?
Non, plus l'homophobie, mais la transphobie un peu moins.
C'est une réaction courante devant le lycée Marie Curie à Échirolles. La dizaine d'élèves rencontrés n'ont quasiment jamais entendu parler de la transphobie. Pourtant, elle est bien réelle. Et pour Karine Espinera, sociologue spécialiste de la transidentité, il était grand temps qu'on en parle.
Aujourd'hui, il va falloir aussi expliquer qu'est-ce que la transidentité. Parce que parler de transphobie et de la haine ou de la peur des personnes trans qui peuvent conduire à les discriminer, voire même dans certains cas à les assassiner, c'est pas suffisant. Il faut expliquer que ces personnes sont là, qu'elles existent, qu'elles font partie de la population globale, qu'elles sont en rien différentes ou anormales que les autres. Donc cette campagne, moi ce que j'en attends, c'est qu'elle fasse aussi un éclairage sur ce que sont les personnes qu'on met derrière ces mots-là.
Même s'il est encore impossible de connaître le nombre de transsexuels présents dans les établissements scolaires, il paraît indispensable à la sociologue de sensibiliser à cette question dès le plus jeune âge.
Dans la jeune génération, il y a une chance quand même d'en faire des citoyens et des citoyennes qui respectent la différence, et surtout, plus que parler de différence, c'est surtout qui respectent la diversité. Et je pense que vis-à-vis de ce public-là, Il y a encore temps d'agir.
Tous égaux, tous alliés, c'est le slogan de cette campagne. Distribution de flyers, d'affiches, mise à disposition d'un numéro d'urgence pour les élèves victimes ou encore un guide d'accompagnement pour les professeurs sont désormais disponibles dans tous les collèges et lycées français.
En 2017, le signalement d'actes de violence envers sa communauté a augmenté de 38% selon SOS Homophobie. Les clients des prostituées continueront à être pénalisés. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a jugé conforme la loi qui prévoit une amende de 1 500 € pour les adeptes d'actes sexuels tarifés. Il va donc à l'encontre de la demande de 9 associations et d'une trentaine de travailleurs du sexe. Ces derniers dénonçaient un texte portant atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté sexuelle et réclamaient sa suppression. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a validé hier la procédure d'arrêt des soins de Vincent Lambert. La justice invoque l'obstination déraisonnable de maintenir en vie cet homme en état végétatif depuis 10 ans après un accident de la route. Pour elle, la volonté de Vincent Lambert de ne pas être maintenu en vie est établie.
Notre alimentation est en question cette semaine, Florine.
En effet, Xavier, près d'une tonne de viande avariée polonaise s'est retrouvée dans nos assiettes. Annonce faite ce matin par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Elle provenait d'un abattage illégal pratiqué en Pologne. Les services sanitaires français ont déjà retrouvé 795 kilos de cette viande de bœuf, mais pas d'inquiétude, elle ne représente pas de risque pour la santé des consommateurs. Autre révélation faite par Didier Guillaume cette semaine, les prix de certains produits de la grande distribution augmentent dès aujourd'hui. Une hausse en moyenne de plus de 6% sont concernés notamment le Nutella, le Coca-Cola, les spaghettis Panzani ou encore le café Carte Noire. Le gouvernement justifie cette hausse par la nécessité de protéger les producteurs français. L'incendie des locaux de la radio France Bleu Isère, perpétré dans la nuit de dimanche à lundi, il a été revendiqué mercredi. Un texte a été publié sur Indymedia, un blog lié à la mouvance anarchiste libertaire. Y sont dénoncés notamment les industriels d'hypnose collective. Léo Corcos, bonjour.
Bonjour Florine.
Qui sont ces anarchistes libertaires et que veulent-ils dire par là?
Alors première chose, Florine, cette revendication c'est peut-être juste de l'opportunisme. Le parquet de Grenoble appelle à la prudence, du soutien, oui, mais une revendication, c'est encore tôt pour le dire. On se rappelle de l'incendie de la gendarmerie de Meylan en octobre 2017. Les anarchistes libertaires avaient également revendiqué, mais les coupables appartenaient au milieu de la petite délinquance. Mais à Grenoble, Florine, cette nébuleuse s'est formée notamment contre la Minatech, le complexe scientifique dédié aux nanotechnologies. Elle l'assimile à une institution bourgeoise, c'est un peu la science au service du profit et donc une menace sur les libertés individuelles. Cela peut donc expliquer un autre incendie, celui du centre scientifique grenoblois de la Casemate en novembre 2017. Les anarchistes y dénonçait la dictature du numérique. Se féliciter de l'incendie d'une radio ou d'une gendarmerie, c'est donc naturel pour eux, ce sont des symboles du pouvoir dominant. Et enfin, dernier détail, Florine, les anarchistes libertaires agissent dans l'ombre, ils se rassemblent facilement grâce aux réseaux sociaux pour mener leurs actions, puis ils se dispersent rapidement, c'est pourquoi ils sont insaisissables et on ne peut pas dire précisément combien ils sont.
Merci Léo pour ces précisions.
Une mosquée grenobloise dans la tourmente.
La mosquée Al-Kautar, située rue des Trembles, pourrait être contrainte de fermer ses portes pendant 6 mois pour idéologie islamiste radicale. On l'a appris lundi, c'est une décision du préfet de l'Isère. Il accuse l'imam d'avoir tenu des propos contraires aux valeurs républicaines en 2014. La décision définitive doit être rendue dans les prochains jours. Nous avons rencontré le porte-parole de l'association musulmane dauphinoise.
Évidemment, toute l'association a été très surprise, voire choquée de ce courrier. Dans l'attente d'une décision préfectorale, et en attendant que la personne visée, en l'occurrence l'imam, puisse lui aussi remonter ses observations, l'association a décidé de révoquer l'imam à titre conservatoire, tout en sachant que l'imam lui-même a sa propre situation à défendre. Aucun fidèle ne s'est jamais plaint de propos qui pourraient être problématiques. Maintenant, chaque imam est libre d'aborder les sujets et les thèmes qu'il souhaite. Le seul point étant qu'une fermeture de l'établissement aurait des conséquences sur des centaines de fidèles. Mais à l'heure actuelle, l'association n'a pas reçu de consigne particulière de la part de l'administration depuis que celle-ci a fait état de ses remarques.
Et si la fermeture de l'établissement est confirmée, 400 fidèles se retrouveraient sans lieu de culte. Et puis au Venezuela, le président autoproclamé Juan Guaido a appelé à manifester demain contre le président en place Nicolas Maduro, dont la réélection au mois de mai avait été jugée illégitime. L'opposition soutenue par l'Union européenne et une partie de l'Amérique latine réclame de nouvelles élections. C'est parti ce soir pour le tournoi des 6 nations en rugby. L'équipe de France affronte le Pays de Galles, troisième nation mondiale au Stade de France. Ce sera à 21h. L'objectif, faire mieux que leur quatrième place de l'an dernier et surtout se préparer pour la Coupe du Monde au Japon en septembre prochain. En football, début de la 23e journée de Ligue 1, Lille reçoit Nice à 21h. En cas de victoire, les nordistes pourraient conforter leur deuxième place au classement. On n'oublie pas non plus le GF38. Les Grenoblois se déplacent à Châteauroux. Coup d'envoi à 20h.
Merci Florine Bokelifa. On vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres.
Microcité.
Avant de passer à notre débat sur la loi anti-casseurs et ses limites, place à la musique pour remettre un peu de couleur dans le ciel tout gris d'aujourd'hui. C'est Arc-en-ciel de Polo Npan, il est 16h44. Vous êtes toujours dans Microcité, on est ensemble jusqu'à 17h. Et tout de suite, on va parler de la controversée loi anti-casseurs.
Le dossier.
Un débat consacré donc à la loi anti-casseurs présentée cette semaine à l'Assemblée. Elle va y être votée mardi. Bonjour Rudy Pupin.
Bonjour Xavier.
C'est une réponse aux violences de ces derniers mois lors des manifestations des Gilets jaunes.
Oui, ces images de destruction, de commerçants qui se barricadent, de pavés jetés sur les forces de l'ordre. Le gouvernement ne veut plus les voir. Avec ces lois, le préfet pourra interdire certains individus violents de manifester. Elle pourra aussi sanctionner plus sévèrement ceux qui cachent leur visage avec un casque ou une cagoule. Ils encourent maintenant une peine de prison. Beaucoup trouvent que cette loi va à l'encontre de la liberté de manifester. Avec nous en studio, Jean-Charles Collaroy, député de La République En Marche de la 2e circonscription de l'Isère. Bonjour.
Bonjour, merci pour votre accueil.
Merci. Vous êtes élu de la majorité et vous soutenez ces mesures. Et en face de vous, Denis Fabre. Bonjour Denis Fabre.
Bonjour.
Vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme à Grenoble et vous, vous y êtes opposé.
Tout à fait.
D'abord, je vais me tourner vers vous, Jean-Charles Collaroy. Pourquoi cette loi? Pourquoi maintenant? Des violences dans les manifestations, c'est pas nouveau.
Alors, c'est vrai que, pour reprendre ce que vous avez dit c'est une loi qui vient des manifestations des Gilets jaunes. En fait, ce n'est pas une loi de circonstance, c'est une loi qui vient du phénomène des Black Blocs sur les manifestations qui ont eu lieu en mai et juin, en particulier au moment de la réforme de la SNCF. Et on s'est aperçu que ces Black Blocs, c'était 200, 300, venaient se mêler aux manifestants, aux syndicats qui organisaient, et avaient des comportements très violents qui dissuadaient parfois même certains de manifester. Et ensuite, il y a eu la crise des Gilets jaunes, il faut le rappeler, en décembre, des samedis extrêmement violents.
Le 1er décembre.
Oui, bien sûr. Et jusqu'à ce samedi avec une partie de destruction de l'Arc de Triomphe. Et là, bien sûr, il y a eu la volonté de se saisir d'une proposition de loi qui était en préparation au Sénat, du sénateur Retailleau. Et nous avons un peu accéléré le rythme d'application de cette loi. Mais ce n'est pas une loi de circonstance pour les Gilets jaunes.
Et pour vous, Denis Fabre, cette loi prive justement les citoyens de leur liberté fondamentale, de l'une de leurs libertés fondamentales, celle de manifester.
Oui, c'est la crainte qu'on a parce que cette loi est un texte supplémentaire qui vient après une succession depuis plusieurs mois et même plusieurs années de textes de plus en plus répressifs. Et qui mettent chaque fois un peu plus en cause les libertés fondamentales, liberté d'expression, d'opinion et notamment de manifester.
Nous pensons au contraire que c'est une loi qui va permettre de manifester pacifiquement. Aujourd'hui, nous avons des citoyens qui disent « je ne vais plus aux manifestations parce que j'ai peur de la violence, des casseurs, d'être pris à partie ». Et le fait de mieux cibler les casseurs, d'interdire de manifestation certains individus violents, d'essayer d'enlever des armes par destination, boules de pétanque ou des gens qui viennent à la manifestation pour casser, cela doit permettre de revenir à des manifestations pacifiques et de ramener des gens dans les manifestations.
Et ça, Denis Fabre, vous le comprenez, qu'on doit mieux cercler ces manifestations, mieux les organiser?
Oui, je comprends surtout qu'une des missions principales de la police républicaine, c'est d'assurer d'assurer l'ordre et d'assurer notamment la sécurité des citoyens dans toutes les circonstances, y compris en manifestant. Lors de manifestations, ça c'est certain. Pour le moment, le risque qu'on redoute, c'est de voir plutôt des gens être inculpés, dissuadés, voire sanctionné pour avoir présent, hein, ou présumé avoir l'intention de manifester, parce que le texte, alors j'ai pas malheureusement vu les dernières.
Pour vous, Denis Fabre, en fait, le concept de casseur est trop flou, c'est ça? La définition de casseur.
Disons que le concept de casseur tel qu'il est visé par la loi est effectivement trop large.
Là-dessus, je voudrais vous répondre parce qu'on a partagé vraiment ces inquiétudes à La République En Marche et on n'a pas du tout repris le même texte qu'au Sénat proposé par le sénateur républicain Retailleau. On a complètement réécrit l'article 1 et nous y avons enlevé le fait d'avoir des palpations, des fouilles au corps, et nous avons uniquement gardé le fait de fouiller des sacs ou des coffres de voiture pour pouvoir vérifier que des gens ne viennent pas avec des armes par destination, des boules de pétanque, des barres de fer. Et sur l'article 2 qui posait le plus de problèmes, nous avons mis des garde-fous, puisque l'article 2 vise à interdire de manifestation quelqu'un qui a manifestement été violent lors d'une précédente manifestation. Eh bien, nous avons mis des garde-fous.
L'article 2, justement, on en parle. C'est vraiment l'interdiction administrative. On parle bien d'interdiction administrative. On risque jusqu'à, enfin, ceux qui tentent, qui sont interdits de manifestation et qui vont manifester quand même, risque jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. C'est ça bien. On parle bien de ça. Et donc, ces personnes-là,
Là, l'idée, c'est de mettre fin au fait que on voit des casseurs, on les reconnaît, on les identifie, et le temps de la justice fait que la semaine d'après, les semaines suivantes et pendant des semaines et des mois, ces personnes-là peuvent encore revenir manifester samedi après samedi et casser. Là, l'idée, c'est que effectivement, dans l'autorité administrative du préfet, on puisse avoir une mesure pour extraire ces personnes très violentes. On parle bien de gens qui ont dégradé, de gens qui s'en sont pris physiquement aux forces de l'ordre ou à d'autres manifestants, assez rapidement, préventivement. Et l'autre garde-fou que nous avons mis, c'est la possibilité de faire un recours auprès de la justice administrative dans les 48 heures pour qu'un juge puisse se prononcer sur la décision qui est prise par le préfet. Donc nous avons une décision pour conserver l'ordre public contre les casseurs les plus violents et avec des garde-fous. Voilà l'article 2.
Oui, ce qui m'étonne, c'est que on avait l'impression que la police et notamment les services de renseignement, à condition qu'ils aient la possibilité, les effectifs suffisants, etc., pour faire leur travail, avaient les moyens de prévenir un certain nombre d'agissements néfastes. D'ailleurs, une des, alors je sais plus si c'est l'acte 8 ou 9 des gilets jaunes à Paris, il y a eu où on redoutait effectivement. C'était celui qui est venu après le plus
violent.
Il y a eu des tas d'arrestations préventives qui ont neutralisé, alors qui certes posent aussi des problèmes de liberté individuelle, mais qui ont apparemment, en tout cas, réussi à neutraliser un certain nombre d'éléments qui étaient très mal intentionnés.
Mais moi, je ne suis pas favorable non plus aux gardes à vue préventives sans motif et avec simplement une stratégie policière. En revanche, quand la personne sort de garde à vue, si une décision judiciaire n'est pas prise dans les jours ou dans les semaines qui suivent, on peut la retrouver samedi après samedi à commettre de nouvelles dégradations. Là, l'idée, c'est vraiment d'extraire ces 200, 300, 400 casseurs qui sont ciblés à l'échelle du territoire et d'éviter que samedi après samedi, on les retrouve dans les manifestations.
Alors justement, ce qui peut aussi, pas choquer, mais en tout cas poser question ici avec cette loi, c'est que ce sont les préfets qui pourront interdire à des individus d'aller manifester. Alors pourquoi pas donner ce rôle aux juges qui sont indépendants plutôt qu'aux préfets, hein, une autorité administrative ?
Bien justement, pour avoir cette rapidité d'action, et il y a le recours dans un délai de 48 heures à quelques jours où le juge, la justice administrative, peut venir, et si les personnes qui sont incriminées par ces interdictions en font la demande. Donc nous avons mis ce garde-fou dans l'article 2 du recours à la justice administrative en appel.
Et est-ce que vous pensez que le temps de la justice, là, il répond vraiment à la demande 48 heures ou quelques jours ?
Bien sûr, parce qu'on a on a l'autorisation administrative du préfet qui extirpe les casseurs les plus violents des manifestations. Et on a un recours rapide à la justice administrative si une personne se sent lésée souhaite faire un recours. Donc là, on a à la fois les deux objets du texte, c'est-à-dire extraire rapidement les casseurs et avoir, in fine, un juge qui va trancher rapidement si jamais les personnes se sentent en situation d'injustice.
Alors, le gouvernement a abandonné l'idée d'un fichier spécifique pour identifier les casseurs, ce que souhaitaient au départ les sénateurs. Alors, vous le réclamiez, hein, est-ce que c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de fichier de casseurs spécifique aux casseurs, Denis Fabre ?
Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas quand même un fichier, parce que apparemment, enfin, ce que j'ai entendu, c'est que dans les débats de l'Assemblée, mais le député, c'est sûrement plus au fait que moi, c'est qu'il serait quand même possible de ficher dans le fichier des personnes recherchées un certain nombre de gens. Que ces fichiers,
avec les fichiers S, les migueurs, les fugueurs ou les criminels de droit commun, par exemple.
Hein. Ces fichiers sont accessibles à un nombre à des personnes simplement habilitées, etc. Mais enfin, bon, c'est quand même un fichier. Et les fiches sont réputées pouvoir être caduques au bout d'un certain temps si on en n'a pas besoin. En gros.
Tout à fait, oui. Donc, c'est le
tout ça,
fichier. Bien sûr.
Il faut que ça soit sous contrôle.
Là, il y a eu un engagement qui a été pris d'un effacement des fiches. C'est le terme qui a été donné par le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée, là, en séance. L'effacement de ces fiches au bout de quelques semaines en cas de non-récidive.
Très bien. Alors, justement, on va passer à une autre partie de cette loi qui concerne cette fois les individus qui dissimulent leur visage. Hein. On a l'interdiction de dissimulation du visage. C'est encore assez flou. Hein. Par exemple, si moi, imaginons que je manifeste pacifiquement et que je me trouve dans une zone où il y a des casseurs et que j'ai mis une écharpe sur mon visage pour me protéger des gaz lacrymogènes, on ne me voit pas, donc on ne voit pas mon visage. Est-ce que je risque, monsieur le député, monsieur Collaroy, d'être interpellé, voire condamné ?
En fait, vous savez, on peut avoir la loi, l'esprit de la loi, et puis en fait, ensuite, voir toutes les surinterprétations possibles qu'on peut en faire. Il est bien évident que là, cet article vise ceux qui viennent équipés pour en découdre avec les forces de l'ordre. Quelqu'un qui vient avec un masque de ski, un visage couvert pour pas qu'on le reconnaisse. Et il s'agit là encore une fois d'avoir une désescalade de la violence dans ces manifestations et d'être capable de dire... On vient à une manifestation à visage découvert. On vient manifester, pas pour casser, mais pour exprimer une opinion. Et encore une fois, s'attaquer aux 200, 300 casseurs, c'est aussi permettre à tous ceux qui veulent manifester librement, pacifiquement, de le faire.
Denis Fabre, je vois...
Oui, présenté comme ça, effectivement, bon, ça paraît de bon sens, mais oui, c'est un
peu... Il risque d'avoir des dérives, selon vous, pour vous.
Voilà, parce que en situation, on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Ça fait penser à l'emploi des armes LBD et autres flashballs qui sont employés théoriquement, qui devraient être employés que dans certaines circonstances, de façon très encadrée par les modes d'emploi de la police. Mais à partir du moment où les hommes en sont dotés, voilà, en situation, on a vu qu'il y avait malheureusement des accidents qui n'étaient pas forcément... justifié. En tout cas, s'il n'y avait pas eu ces armes, les accidents n'auraient pas eu lieu.
Moi, je vous rejoins sur le fait d'encadrer très strictement l'utilisation de ces armes dites intermédiaires. Mais je pense aussi que doter ces policiers de ces armes en les encadrant avec de la vidéosurveillance, avec une formation plus stricte, c'est aussi important pour éviter que les policiers se servent de leurs armes de service et qu'on arrive à un usage... Oui, mais on a vu des situations aussi où les policiers étaient acculés. Et donc, on ne peut pas avoir aucune arme intermédiaire entre les mains nues et l'arme létale.
Alors la violence policière, ce sera peut-être le thème d'un prochain débat sur Radio Campus Grenoble. Alors merci Jean-Charles Collaroy, je vous le rappelle, vous êtes député de La République En Marche de la 2e circonscription de l'Isère, et merci aussi à vous Denis Fabre, vous êtes
merci
membre
vous.
De la Ligue des Droits de l'Homme à
merci.
Grenoble, et un petit mot pour vous dire qu'aujourd'hui les députés en ce moment même terminent d'approuver point par point la proposition de loi.
Merci Rudy Pupin pour ce débat, merci à vos deux invités. Microcité, ça continue. Et on va maintenant parler de rugby France-Pays de Galles. C'est le premier match du tournoi Destination ce soir à 21h. Une rencontre qui va jouer dans un contexte particulier puisque le rugby français connaît une vraie crise de résultats. Mais pas seulement. En 8 mois, 4 joueurs sont morts après un choc reçu sur un terrain. À chaque fois des jeunes de 18 à 23 ans. En cause, la violence du jeu et notamment les commotions cérébrales, la principale cause de ces drames. Alors ces accidents ont-ils changé la préparation des jeunes joueurs de rugby? Réponse à Grenoble avec Alexandre Lepère. Il a assisté à une séance de musculation chez les espoirs du FCG, le club de rugby grenoblois.
À presque 18 ans, Victor Guillaumont est l'un des joueurs clés des Crabos, l'équipe espoir.
Ça ne fait pas plus peur qu'avant.
Du haut de son 1m90, ce troisième ligne n'a pas changé son approche sur le terrain.
Nous, ce qu'on s'est dit avec mes amis, tout ça, quand on en a parlé, c'est plus que c'est plus des accidents selon nous et que ça peut arriver à tout le monde.
Pas de révolution, mais des ajustements. Les entraînements des rugbymen ont quand même été modifiés ces derniers mois.
En fait, on a quelque chose qui nous tient la tête.
Tu veux mettre un harnais sur la tête ?
Ouais, et avant de mettre le harnais, je contracte la mâchoire. Et histoire de bien me mettre en position. Et après, je reste statique, 20 secondes de face, 20 secondes de côté.
Pour éviter les commotions, ces jeunes joueurs passent plus de temps sur la musculation des cervicales, 3 à 4 minutes par jour en moyenne.
Du coup, on peut répéter souvent la charge. On n'aura pas des séquelles, je veux dire, physiques comme des grosses courbatures.
Tout ce travail est surveillé et validé par Alex Coréard, leur préparateur physique.
Il y a une prise de conscience du côté des joueurs. Jusqu'à maintenant, on était derrière eux pour les inciter et toujours rappeler qu'il faut faire les protocoles de cervicales. Cette année, les joueurs le font plutôt d'eux-mêmes.
Des petites retouches, c'est aussi la stratégie des dirigeants pour le suivi physique des joueurs.
On a la chance d'avoir un médecin référent qui traite les blessures dès le lundi, le lendemain des matchs.
Au FCG, David Dusser est le directeur de la formation.
On a des protocoles de réathlétisation qui sont extrêmement précis et clairs et gérés par nos préparateurs physiques auxquels tout le monde adhère. Et on met la sécurité au cœur de nos programmes de formation.
Mais cet encadrement des rugbyman est-il suffisant? Pour le neurochirurgien Jean Chazal, c'est non. Lanceur d'alerte sur les dangers des commotions cérébrales, il prône une révolution de l'approche des clubs.
C'est pas assez parce qu'il y en a encore. Et toutes les mesures qui sont prises en aval de la commotion. C'est-à-dire que le joueur fait une commotion, on fait un protocole, on le met peau, on le surveille de très près. Mais ce qu'il faudrait éviter à tout prix, c'est la commotion, ou en tout cas la violence de la commotion. Donc je pense qu'on n'est pas suffisamment dans la prévention.
Plus de prévention, c'est peut-être ce qui aurait permis à Hugo Pandolfo d'éviter la commotion cérébrale. En novembre dernier, ce joueur de 18 ans participait à un stage national à Marcoussis. C'est en plein milieu d'un entraînement qu'il a encaissé un violent plaquage.
J'ai pas mis ma tête du bon côté, donc j'ai la nuque qui a... Ça a craqué, donc j'ai vu un peu les étoiles. Et je suis pas sorti tout de suite. Après, dans la même action, j'ai pris un coup de genou sur la tête. Et à la fin de l'entraînement, ils ont allumé les spots du stade. Et c'était impossible que je les regarde. Je n'arrivais pas à regarder la lumière.
Arrêté pendant 3 semaines, Hugo est ensuite revenu sur les terrains. S'il ne pense pas à son accident pendant un match, quelque chose a quand même changé en dehors.
Avec tout ce qui se passe en ce moment, tu réfléchis. Des fois, tu prends des coups, t'as les étoiles, donc tu le dis pas toujours. Mais tu te dis que faut peut-être mieux le dire et pas finir tétraplégique à 40 ans. Voilà.
D'ici là, les règles auront peut-être évolué. La Fédération française de rugby propose désormais d'interdire le plaquage au-dessus de la ceinture. Une idée pour tenter d'arrêter cette série noire qui secoue le Valais.
C'était le long format d'Alexandre Lepère et justement les règles évoquées ont déjà changé chez les plus petits depuis le mois de septembre où le passage en force est interdit dans les catégories moins de 14 ans.
Microcité jusqu'à 17h.
Bientôt 17h dans Microcité, mais avant de se quitter, on retrouve Florine Boukhalifa pour le rappel des titres.
À la veille de l'acte 12 des Gilets jaunes, le Conseil d'État rejette les demandes de suspension de l'usage des LBD, également appelés flashball. Il les considère, je cite, « nécessaires et appropriés ». Un skieur de 18 ans porté disparu dans le secteur de l'Alpe d'Huez, il a été vu pour la dernière fois hier après-midi au télésiège du Signal. Les secours ont lancé un appel à témoins et les recherches se poursuivent. Les ennuis continuent pour Alexandre Benalla. Mediapart a révélé hier des enregistrements audio où on l'entend avec Vincent Kraz, ancien gendarme et employé de La République En Marche, et ce, alors qu'ils avaient l'interdiction totale de se rencontrer. On entend aussi l'ancien chef de la sécurité d'Emmanuel Macron se vanter du soutien du président de la République.
Microcité.
Merci Florine Boukhalifa. Microcité, c'est déjà fini pour aujourd'hui. C'était un vrai plaisir d'être avec vous pendant une demi-heure. On se retrouve vendredi prochain à 16h30. D'ici là, vous pourrez nous réécouter en podcast sur campusgrenoble.org. Très bon week-end à tous et vive la radio.